France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un Père Noël dévoré par les flammes une veille de réveillon, l'affaire dite du Père Noël supplicié de Dijon. Le 23 décembre 1951, le parvis de la cathédrale de cette ville devient le théâtre d'une scène digne du Moyen-Âge. Devant des centaines d'enfants ébahis, un mannequin à l'effigie du Père Noël est pendu aux grilles. Condamné par contumace pour usurpation et hérésie, sans véritable procès et sans même que ses juges soient connus, le vieux bonhomme au costume blanc et rouge est ensuite exécuté et incendié devant une foule déchaînée. Inculpé pour avoir rompu le lien privilégié entre catholicisme et fête de fin d'année, accusé de propagande commerciale, le Père Noël paye cette faute du consumérisme. De simples faits divers régionales, l'affaire dite du Père Noël supplicié de Dijon témoigne en réalité de la jalousie qui existe dans le clergé pour tous ceux qui osent lui faire de l'ombre. L'affaire va se retrouver en une de la presse nationale et même dépasser les frontières du pays. Son ampleur est telle que l'ethnologue Claude Lévi-Strauss va en faire un objet d'étude. Notre invitée aujourd'hui est l'historienne Nadine Cretin. Membre de la Société d'ethnologie française et de la Société d'histoire religieuse de la France, elle est spécialiste des relations entre le territoire et ses usages festifs, rituels et spirituels. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Dis-moi, tu as quel âge ?
5 ans.
Comment il est le Père Noël ?
Il est vert.
Et encore ?
Il est jeune.
Il est jeune ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu demandes dans cette lettre ?
Dans cette lettre, j'écris petit Papa Noël.
Quand il les apporte les jouets, où est-ce qu'il les met ?
Il les met dans le lit. Quand je me reviens, moi, et ben j'ai trouvé un cadeau. Puis j'ouvre la boîte, et puis je sais bien c'est quoi. À Noël, j'ai un téléphone, un parapluie, et puis un petit singe qui bouge.
Dimanche 23 décembre 1951, Dijon. À la veille du réveillon, certains enfants peaufinent encore leur liste au Père Noël, quand d'autres attendent déjà avec impatience leur cadeau au pied du sapin. Ou dans le lit, comme disait le gamin tout à l'heure. Dans le quartier de la cathédrale Saint-Bénigne, comme chaque midi à l'heure du déjeuner, une dizaine de mobilettes sillonnent les rues. À leur guidon, on distingue de jeunes hommes en costume rouge et blanc. Voilà plusieurs semaines que ces Pères Noël sur deux roues rythment le quotidien des riverains, autant d'ailleurs qu'ils font le bonheur des gamins du coin. Surpris par le bruit et par l'accoutrement des motards, nombreux en effet sont les passants qui se retournent et qui s'arrêtent. Les jeunes hommes leur distribuent alors des tracts publicitaires pour faire les achats de Noël dans les grands magasins. Dans cette France de l'après-guerre, qui tente d'oublier les années noires de l'occupation et du régime de Vichy, la présence de ces faux Pères Noël à mobilette prête à sourire. À Dijon, comme dans toutes les villes et villages de l'Hexagone, il n'est pas rare de croiser la longue barbe blanche et le ventre rouge et rebondi du héros de ces fêtes de fin d'année. On retrouve ce personnage soit dans les vitrines des boutiques, soit accroché à la rambarde au-dessus des commerces, ou encore placardé dans les encarts publicitaires des journaux. Présent dans les rues de Dijon, l'envoyé spécial de la radio Paris Inter, l'ancêtre de celle que vous écoutez en ce moment, témoigne de la vague de décorations, de lumières et d'attractions qui sont dédiées au Père Noël un peu partout dans la ville.
Dijon est éclatant de lumière depuis 15 jours. Vous savez, la rue de la Liberté est bien connue, et croulait en quelque sorte sous les arceaux de lampes rouges et or aux couleurs de la capitale bourguignonne. Et c'est quand un peu cette rue, si vous voulez, comme l'épine dorsale lumineuse d'un fabuleux animal formé des rues des Godrans, illuminées de sapins verts suspendus, de la rue Pirot aux soucoupes volantes bleues et blanches, et de la rue Dubourg aux resplendissantes étoiles d'or. Les sapins illuminés des places Saint-Bernard, République, Wilson et la célèbre place des Ducs sont bien plus hauts que tous les sapins que j'ai pu voir moi-même à Paris.
Derrière les grilles de la cathédrale Saint-Bénigne, lieu de refuge chaque hiver d'une dizaine de sans-abri, de prostituées et autres victimes de guerre, l'omniprésence de ces joyeux Pères Noël à deux roues et le leur spectacle consumériste est vécu par certains comme une provocation. Témoin de cette rancœur, qui partage le père Jacques Nourissa. À 34 ans, ce curé est connu par les Dijonnais pour son dévouement à l'égard des plus démunis. Personnage respecté et respectable, il considère que Noël, c'est avant tout l'amour gratuit, un don, un geste, dit-il. Alors, voir des petits jeunes déguisés faire la réclame à mobilette pour le commerce, ça ne lui plaît pas, c'est aux antipodes de sa philosophie. Pour lui, en effet, cette pratique mercantile nuit au principe catholique de sobriété, de partage et d'entraide qu'incarne depuis des siècles la célébration de la fête de la Nativité, où chaque 25 décembre, l'Église catholique commémore et glorifie la naissance de Jésus-Christ. Le point de vue du prêtre dijonnais rejoint d'ailleurs l'opinion du clergé catholique en France. Ce dernier considère le Père Noël comme un usurpateur, pire même, comme un hérétique. Voilà plus de 6 mois que dans la presse nationale, le pauvre bonhomme chargé de cadeaux est jeté en pâtiroire critique. Dans les colonnes du journal La Croix, un représentant de l'Église l'accuse par exemple de paganiser les fêtes de fin d'année et prédit des actions contre cet affront. Dans une interview au journal L'Aurore, le cardinal Saliège, compagnon de la Libération, homme pourtant modéré, figure bien connue des Français pour avoir osé protester contre l'arrestation des Juifs par Vichy, eh bien, même lui condamne l'action du Père Noël. Et partout en France, cathédrales et paroisses se mobilisent, comme en témoignera plus tard un autre prêtre, le père Pichard.
L'archevêque de Toulouse, le cardinal Saliège, l'archevêque de Besançon et d'autres encore ont fait des mandements contre le Père Noël. Leurs arguments d'ailleurs sont très simples et très connus des chrétiens, c'est qu'il est peu souhaitable de mentir aux enfants. Et il est certain qu'on ment aux enfants avec ce mythe du Père Noël. Et l'archevêque de Besançon déclare dans son mandement qu'il vaut mieux perdre en poésie ce que l'on gagne en confiance.
En coulisses, ce que l'Église refuse d'admettre, c'est la jalousie qu'elle voue à ce personnage qui fait rêver les enfants. Depuis plusieurs années déjà, le Père Noël, représenté comme un vieil homme ventripotent, gentil, souriant et déguisé d'un large costume, vole la vedette à Jésus le soir du réveillon. Le sacrilège va même plus loin. Alors que les crèches miniatures sont désormais bannies de tout établissement d'enseignement public en France, le Père Noël, lui, a le droit d'être dessiné, chanté, accueilli dans les salles de classe. L'Église catholique crie à l'imposture, à la mascarade, au scandale. Oubliant au passage que notre pays vit sous le magistère de la séparation des églises et de l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, au mois de novembre de cette même année 1951, le Père Noël est de nouveau pris pour cible, mais cette fois par des hommes de science. Dans François, des psychiatres et des psychanalystes l'accusent d'avoir des effets néfastes sur la santé psychique des plus jeunes. « La légende de Noël doit être détruite dans l'esprit des enfants », écrit le journal. Et toutes ces critiques vont prendre un tournant diplomatique inattendu. Lors d'un passage en France, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le psychiatre canadien Brock Chisholm, déclare, face à des journalistes, vouloir abattre le Père Noël, afin, explique-t-il, de préserver la santé mentale des enfants. Le même docteur Chisholm a d'ailleurs prévu d'en débattre lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. Rien que ça. Voilà pour le climat de tension autour de la figure du Père Noël à la veille du réveillon de 1951. Dimanche 23 décembre, parvis de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, il est 15h. En cet après-midi d'hiver, des rafales de vent balayent les rues de la capitale des Ducs de Bourgogne. Malgré le froid, plusieurs centaines d'enfants, accompagnés de leurs parents, sont réunis face à la grande porte de la cathédrale. Car tous ont répondu présents à l'appel des organisations catholiques de la ville. Un rendez-vous d'apparence anodin, mais d'apparence seulement, comme l'explique le père Jacques Nourissa.
Nous avions préparé à l'occasion de Noël une espèce de fête qui était très bien dans le fond de la cathédrale, qui est superbe, où on avait combiné à peu près 200 enfants qui devaient venir pour faire une espèce de jeu scénique où un couple, qui était d'ailleurs ravissant, et puis avec un petit enfant, allait venir pour signifier vraiment le jeu de Noël, si vous voulez. Alors, pour les enfants, c'était la grande affaire. Et parce qu'ils étaient participants à ça. Et nous avions toute une équipe de laïcs qui étaient eux aussi, là, ils n'avaient pas de titre ni rien, mais qui étaient tellement heureux de faire ça, parce que c'était la première fois depuis la fin de la guerre qu'on faisait ça.
Un rassemblement des paroissiens suivi d'un spectacle scénique. Voilà comment est décrit l'événement à la mairie de Dijon. Le député-maire de la ville, Félix Kir, donne son accord. Cet élu est d'autant plus favorable à la tenue de cette manifestation qu'il est lui-même prêtre, chanoine. La presse locale l'appelle d'ailleurs de son nom d'église, le chanoine Kir, à qui on donnera le nom de l'apéro, le Kir, mélange de crème de cassis et de vin blanc à ligoter. Mais revenons à nos moutons, car il se trouve que cette célébration, somme toute classique pour l'époque, va dégénérer. Dans les minutes qui suivent, en effet, le parvis de la cathédrale devient le théâtre d'un auto-da-fé où un hérétique va être mis à mort. La porte de la cathédrale s'ouvre alors sur un petit groupe de 5 personnes transportant un mannequin. Il a le visage mangé par une large barbe blanche et le dos recouvert d'une longue cape rouge. La foule, qui a suivi le petit groupe hors de la cathédrale, reconnaît bien évidemment la figure du Père Noël. L'un des hommes escalade les grilles, récupère une corde qu'on lui lance et hisse le Père Noël comme un pendu. Le public applaudit, puis se déchaîne, exigeant qu'il soit brûlé. La sentence est immédiatement exécutée. Les flammes dévorent très vite l'effigie constituée de tissus emmailloté autour de fils de fer. Les flammes atteignent plusieurs mètres de haut et vont jusqu'à frôler la structure de la cathédrale. Qu'à cela ne tienne, le spectacle continue et continuera jusqu'à ce que le visage de ce faux Père Noël s'évanouisse dans la fumée et que son corps disparaisse en cendres. À quelques mètres de là, les enfants applaudissent parce que tous les enfants aiment les spectacles et leurs parents crient leur joie, acteurs et témoins, eux, de la pensée religieuse totalitaire qui dit au Père Noël « Tu nous fais de l'ombre, tu fais de l'ombre aux dogmes, alors on t'élimine ». Présent près des grilles, le père Nourissa distribue un manifeste à la foule. Un tract qu'il lira plus tard au micro d'Aurélie Luneau et de Christine Robert.
Représentant tous les foyers chrétiens de la paroisse désireux de lutter contre le mensonge, 250 enfants groupés devant la porte principale de la cathédrale de Dijon ont brûlé le Père Noël. Il ne s'agissait pas d'une attraction, mais d'un geste symbolique. Le Père Noël a été sacrifié en holocauste. À la vérité, le mensonge ne peut éveiller le sentiment religieux chez l'enfant, ni en aucune façon une méthode d'éducation. Que d'autres disent et écrivent ce qu'ils veulent et fassent du Père Noël, le contrepoids du Père Fouettard. Pour nous, chrétiens, la fête de Noël doit rester la fête anniversaire de la naissance du Sauveur.
Dans les rues de Dijon, cette scène qui renvoie aux pires horreurs du Moyen-Âge, quand l'Église catholique faisait la pluie et le beau temps dans un déchaînement de violence et de cruauté, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Mais les premières informations qui circulent par le bouche à oreille sont totalement contradictoires. Il est d'abord question d'un feu à la cathédrale, puis d'un accident. Il est aussi question d'une foule joyeuse avec des enfants, et enfin d'un Père Noël qui aurait été pendu. Au siège du journal La Bourgogne Républicaine, le rédacteur en chef, Michel Moirand, reçoit un coup de téléphone. Son interlocuteur lui affirme que le Père Noël vient d'être brûlé vif sur les grilles de la cathédrale et que les flammes ont été telles qu'il reste des traces noires sur les murs de pierre de l'édifice. Michel Moirand pense d'abord à un canular. Il se rend sur place avec l'un de ses journalistes et un photographe. Sur les lieux du drame, les pompiers sont déjà là. La foule, elle, a commencé à se disperser. Aux rares personnes qui acceptent de parler, Michel Moirand comprend qu'il s'agit d'un incendie prémédité. Oui, organisé par le clergé et dont la véritable motivation est de dénoncer l'aspect commercial de la fête de Noël. Pointé du doigt par une partie des Dijonais et par la mairie qui voit d'un très mauvais œil l'organisation de brasiers sur la place publique, le père Jacques Nourissa est sommé de s'expliquer. Des années après, il affirmera avoir écouté ses ouailles.
Ce qui me regardait, c'était l'usage de ce qui est un symbole religieux de Noël et de l'enfant Jésus à travers, j'allais dire, un personnage qui est mythique purement, qui n'a aucune histoire autre que celle que nous avons inventée. Alors je dis, pourquoi c'est un scandale ? Ben nous qui sommes des pauvres, ça nous fait honte de dire qu'on va servir de lui pour faire donner de l'argent par les gens dans les grands magasins et tout ça. Et c'est eux qui ont été, excusez-moi, blessés profondément. Alors, je les ai écoutés, Et puis je me suis dit, je vois pas très bien où est-ce qu'on va aller. Et puis voilà que l'un a dit, ben, si on brûle un Père Noël à la porte de l'église. Et c'est comme ça que c'est venu.
Dans les rues de Dijon, cette exécution du Père Noël en place publique, par le feu et devant des centaines d'enfants, divise la population, tant la symbolique de l'action est choquante. Dans la presse locale, un instituteur parle d'un acte stupide et irréfléchi. Certains commerçants s'inquiètent et posent une question fondamentale. Après le Père Noël, feront-ils la même chose avec notre Marianne ? Quant aux riverains, qui pour certains ont cru que les flammes allaient dévorer la cathédrale et ensuite se propager à leur maison, ils sont encore sous choc de ce qui vient de se passer. Au sein de la communauté catholique, l'événement suscite là aussi des commentaires assez vifs. Et deux camps s'opposent. Ceux qui se réjouissent du succès de cette opération anti-hérésie et de la ferveur de la population autour du bûcher. Certains membres du clergé félicitent même le père Nourissa pour son action. En revanche, à Paris et dans d'autres villes de France, le son de cloche est différent. Certains membres de la hiérarchie critiquent la méthode tout autant que le message qu'elle délivre. Il faut dire que la dernière fois qu'on a assisté à une telle scène en Europe, c'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Cette nuit-là, en Allemagne, les nazis avaient brûlé des synagogues, des montagnes de livres et des magasins appartenant à la communauté juive. Une image terrible, dont les photos de presse sont encore dans les mémoires. Une image à laquelle l'Église catholique refuse de se retrouver associée. Face au malaise et aux proportions que prend l'affaire, l'évêque de Dijon se désolidarise du père Nourissa. Non, il ne savait rien, il n'avait eu vent de rien, il n'était au courant de rien. Dans la presse, l'affaire dépasse bien vite le cadre régional. Elle connaît un retentissement jusqu'à Paris, où elle s'affiche deux jours de suite dans les premières pages du journal Le Monde. Dans les kiosques, à journaux de la capitale, où l'on vend le quotidien dirigé par Hubert Boeuf-Méry, on peut lire « Comme au temps des guerres de religion, la ville de Dijon est de nouveau déchirée par une querelle de dogmes. Et cette fois, l'enjeu, c'est le Père Noël. » Plus surprenant encore, l'affaire va connaître une importante résonance en Belgique et dans le monde anglo-saxon, d'où nous vient justement la tradition moderne de Noël. Le quotidien américain, le New York Times, consacre par exemple un article à l'affaire sous ce titre « Une ville française secouée par un conflit à propos du Père Noël ». Autre témoignage de l'émotion internationale soulevée par cette sorte d'auto-da-fé, l'évêché de Dijon et le père Nourissa reçoivent plusieurs centaines de lettres en anglais et autant de coups de téléphone. Et là aussi, les réactions sont contrastées. Certains félicitent le prêtre pour avoir défendu l'esprit de Noël. D'autres, de l'aveu même de Nourissa, l'appelaient simplement pour l'engueuler. Just like
guitar. Go listen. Children, listen. To hear sleigh bells in the snow.
Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Il semble bien que cette année, on doive moins croire au Père Noël que toutes les années précédentes. Ce personnage, on le sait, est en butte aux attaques simultanées de l'autorité ecclésiastique et de la faculté. Que reproche-t-on au Père Noël ? Que peut-on dire pour sa défense ? C'est ce que nous demandons ce soir à quelques personnalités.
Lundi 24 décembre 1951. Nous sommes à quelques heures du dîner de Noël et des cérémonies religieuses dans toutes les églises et paroisses de France sont organisées. Mais les images de l'affaire dite Bûcher de Dijon sont encore dans toutes les têtes. Face à l'ampleur et l'émoi que suscite l'incident chez une partie de ses administrés, le député-maire de Dijon, le chanoine Kier, donc, décide de faire ressusciter symboliquement le Père Noël sur le toit de l'hôtel de ville. Un communiqué officiel de la mairie annonce ainsi que le bonhomme en rouge invite les enfants de Dijon sur la place de la Libération et qu'il leur parlera du haut du toit vers 18h. En fin d'après-midi, plusieurs milliers de personnes bravent le froid et emmènent les enfants assister à cette résurrection. Après quelques minutes d'attente, grâce à la lumière de grands projecteurs, une silhouette en costume apparaît tout près de la tour Philippe le Bon sur le toit de l'hôtel de ville. Le Père Noël est là. Il marche entre les cheminées avec sa hotte de cadeaux sur le dos pour le plus grand plaisir des enfants. Présente dans la foule, une habitante de Dijon raconte.
Que je me souviens, c'est le Père Noël qui était sur le toit de la mairie et qui il avait un micro et il s'adressait aux petits-enfants. « Toi, Aline, j'ai appris que tu ne voulais pas manger ta soupe. Les mamans, elles savent qu'il faut manger la soupe. Je ne sais pas si je vais venir. » Les enfants avaient des yeux écarquillés derrière, dire mais comment il connaît ça? Pourquoi il le sait? Un autre petit garçon, Frédéric, ton papa n'est pas content. Faut toujours se fâcher pour faire tes devoirs. Il faut faire les devoirs parce que quand tu seras grand, faut que tu aies du savoir. Il y a rien à faire, c'est comme ça. Et alors il y avait beaucoup d'enfants qui étaient assis sur les épaules des papas. Mais c'était leur émerveillement, c'était ça le plus beau.
Sous le costume de ce faux Père Noël, car le vrai existe, on le sait, il vit probablement du côté de la Finlande. En ce moment, il trie les lettres des enfants qui nous entendent peut-être, dont prudence. Bref, sous le costume s'est glissé un homme assez courageux pour affronter les rafales de vent qui soufflent sur le toit de la mairie. C'est un pompier qui s'est porté volontaire. Rouge et volontaire, les pompiers et le Père Noël ont des traits communs. À quelques mètres de là, le chanoine Kier assiste lui aussi au spectacle. Face aux journalistes de la presse locale, il justifie cette opération. « Je ne vois aucun mal à cette coutume », déclare le député-maire de Dijon, qui jusque-là s'était refusé à tout commentaire sur cette épineuse affaire. Puis il ajoute d'un ton enjoué « J'y suis même favorable, puisque comme vous le voyez, eh bien tout cela amuse les enfants ». Si après cette résurrection, le climat de tension redescend à Dijon, au niveau national, l'affaire du bûcher engendre un débat sur le rôle, les devoirs et l'utilité du Père Noël. Au micro du grand studio de la radio Paris Inter, on n'a pas invité que des fanatiques religieux pour une émission. On trouve un membre du laboratoire d'hygiène mentale de la faculté de médecine de Paris, un membre de l'église catholique bien sûr, mais aussi un membre de la Comédie française, ainsi que le président d'une association de jeunesse et un autre d'une association de parents. Des personnes qui dénoncent, je les cite, le danger du mensonge du Père Noël pour les enfants. Première à donner son avis au nom de la science et de la médecine, la docteure Leray, qui décrit le Père Noël comme un individu qui représente un risque pour la santé mentale des enfants.
Le Père Noël me semble une fiction dangereuse parce qu'elle n'est pas présentée justement comme une fiction, mais comme une réalité aux enfants. Et le grand inconvénient, c'est la déception et la perte de confiance que peuvent éprouver les enfants à l'égard de ceux qui leur ont présenté le Père Noël comme une réalité. Et il y a donc le danger d'entretenir une illusion qui lui fera mettre en doute par la suite la véracité des parents et qui risque donc de détruire la confiance.
En face, au nom des artistes et de la comédie française, l'actrice Béatrix Dussane rappelle toute la dimension poétique et merveilleuse de la figure du Père Noël. Elle préfère dénoncer l'instrumentalisation du mythe par le commerce.
L'enfant est toujours plus vieux qu'on ne croit, et il voit, au même âge où on lui raconte le Père Noël, il peut voir des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus graves. Je ne défends pas le Père Noël. Je ne le défends pas, je viens de le dire. Je crois que dans ce temps où tant de gens se vantent d'avoir l'esprit libre et l'esprit fort et de refuser toute espèce de merveilleux, il suffit de 3 ou 4 organisations industrielles et d'une publicité puissante pour que nous voyons naître une idolâtrie avec exactement tous les caractères, y compris le rapport pécuniaire. Hein? Alors je trouve ça en effet à ce point de vue-là tout à fait choquant. Je ne suis pas pour. Hein? J'ai simplement une petite tendresse tout de même pour le merveilleux de l'enfance qui a, encore une fois, de mon temps, n'était pas la présence d'un monsieur avec une fausse barbe.
Le lendemain, le 26 décembre, l'hebdomadaire Carrefour poursuit le débat avec en une ce titre évocateur « Accusez Père Noël, levez-vous ». Dans ses colonnes, deux écrivains s'affrontent pour trancher la question de savoir si le Père Noël a sa place dans notre société ou s'il doit en être exclu. Il y a d'abord celui qui accuse, Gilbert Cesbron, catholique de la première heure. Et puis il y a celui qui lui répond et qui défend le vieux bonhomme en costume rouge et blanc, René Barjavel, écrivain français précurseur de la science-fiction en France. Cesbron attaque le premier.
Des jouets ? Oui, mais que la crèche passe avant la cheminée. Deux mondes se rencontrent, celui du Christ et celui du Père Noël. Mais une seule victime, l'innocent comme toujours, le petit enfant qu'on venait de couper avec le ciel. Un seul responsable, l'attendrissant, le traditionnel, le si joli mensonge des parents.
Ce à quoi Barjavel répond.
Laissons à l'enfance émerveillée son vieux magicien barbu. Dans ce monde que les hommes s'appliquent chaque jour à faire plus triste, plus raisonnable, plus sanglant, et où même les souvenirs sont affreux, il reste une petite lumière. C'est celle des bougies, du sapin brillant sur la barbe de coton du Père Noël. Elle éclaire toute notre enfance.
Dans les jours qui suivent, l'affaire du Père Noël supplicié de Dijon fait la une du magazine Point de vue, l'un des grands titres de la presse écrite de l'époque. En première page, on trouve une photo en noir et blanc du bûcher de Dijon. L'image provoque une onde de choc dans l'opinion. L'Église se refuse à tout commentaire et préfère parler d'un acte isolé perpétré sans consultation préalable des autorités ecclésiastiques, y compris l'évêque de la cathédrale. Quelques semaines plus tard, au début du printemps 1952, il y a toujours deux camps, et ceux-ci se répondent par voie de presse interposée. L'affaire reste au centre des conversations et va même occasionner une brouille entre deux personnages de lettres qui étaient jusque-là deux fidèles amis, le cinéaste Jean Cocteau et le romancier François Mauriac. Le premier est un partisan du Père Noël, le second est l'un de ses détracteurs. Les deux hommes vont se tenir tête pendant des mois sur ce sujet, et on ne sera pas étonné que l'affaire du bûcher de Dijon intéresse les chercheurs en sciences sociales, tant cette histoire en dit long sur la France de l'immédiate après-guerre. Et parmi ceux qui se penchent sur cet épisode, on trouve l'éminent ethnologue, le plus connu dans ce pays, Claude Lévi-Strauss, directeur d'études de l'École pratique des hautes études à Paris. D'ordinaire, Lévi-Strauss traite et étudie les peuples lointains. Mais il est également fasciné par les mythes, leurs représentations et les informations qu'ils peuvent nous transmettre. Sur l'état de notre société, notamment, c'est la raison pour laquelle il va faire de cette histoire un objet d'étude. Son analyse est publiée quelques semaines plus tard dans la revue Les Temps Modernes avec ce titre « Le Père Noël supplicié ». L'ethnologue accorde au personnage un statut de divinité d'une classe d'âge et salue l'utilité sociale de cette figure païenne. Lévi-Strauss avance également que la grande force du Père Noël est de s'adresser à tous les enfants, quel que soit leur pays, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur situation familiale. Sa figure et son image évoquent la joie et le bonheur, que ce soit chez les plus grands que chez les plus petits, écrit le sociologue. Avant de conclure...
En voulant mettre fin au Père Noël, les ecclésiastiques dijonnais n'ont fait que restaurer une figure rituelle dont ils se sont ainsi chargés, sous prétexte de la détruire, de prouver eux-mêmes la pérennité.
Personne ne sait s'il faut y voir un lien de cause à effet, mais dans les mois qui suivent, le Père Noël est finalement réhabilité par l'Académie des Arts, des Sciences et des Lettres de Dijon. 25 ans après Lévi-Strauss, 25 ans après l'affaire, à la veille de Noël 1975, c'est au tour de la psychanalyste Françoise Dolto de se faire l'avocate d'un Père Noël encore et toujours malmené par les débats sur l'éternelle question de savoir si l'on peut mentir ou non aux enfants. La célèbre pédopsychiatre défend avec fermeté l'idée que, et je la cite, « l'émerveillement que procure ce personnage, le fait que chacun soit libre de l'identifier comme il veut, de la rattacher ou non à sa propre histoire, fait du Père Noël un personnage positif dans la construction des repères chez les enfants. » Cette même Françoise Dolto, qui quelques années auparavant s'était vue confier une mission de la plus haute importance par son frère, alors ministre des PTT, rédiger la carte réponse type qui serait envoyée à tous les enfants qui adressent une lettre au Père Noël. Si le Père Noël dépasse les frontières, son symbole reste malgré tout la proie des critiques, et notamment des altermondialistes, des anticapitalistes. Pour ces derniers, il a la couverture naïve de pratiques qui violent les lois et les règles. Celle, entre autres, de l'exploitation des enfants dans les pays pauvres pour la fabrication des jouets, ainsi que le pillage de ressources naturelles pour le transport des cadeaux qui viennent, le plus souvent, de l'autre bout du monde. On le voit, les détracteurs du Père Noël avancent des motivations différentes, contre le consumérisme ou contre l'hérésie. Le glaive et le goupillon d'un côté, la société marchande de l'autre. Pour tous, le Père Noël est une ordure.
Christmas, Christmas, Christmas. With reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. Pretty stockings.
light. Santa Claus is coming down the old chimney tonight. Oh, Christmas time, baby, and the snow is falling on the ground. Well, you be a real good little baby, Santa Claus is back in town.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le Père Noël supplicié de Dijon. Notre invitée, l'historienne Nadine Cretin. Bonjour.
Bonjour.
Membre de la Société d'ethnologie française et de la Société d'histoire religieuse de la France, vous êtes spécialiste des relations entre le territoire et ses usages festifs, rituels et spirituels. Vous étudiez le calendrier, les origines et les manifestations des fêtes occidentales, alors qu'elles soient profanes ou sacrées. Hein. Et vous êtes l'autrice de plusieurs livres consacrés à la fête de Noël. Parmi ceux-là, Lettres de Noël, paru aux éditions Le Robert en 2015, et Fêtes et traditions occidentales, collection Que sais-je, réédité aux presses universitaires de France, tout récemment, là, en 2020. D'abord, dites-nous, d'où nous vient ce mythe du Père Noël ?
C'est un mythe qui est très ancien, en réalité, et qu'on connaît encore au moment des carnavals. C'est-à-dire que le carnaval est un début d'année, et vous avez un personnage qui est généreux, un peu comme les Gilles de Binche, très bien habillé, avec des coiffures extraordinaires, qui jette des oranges, vous en avez d'autres qui jettent des noix ou qui jettent des petits gâteaux. Eh bien, ce sont ces personnages-là qui, ni plus ni moins, vont créer très, très, très progressivement le Père Noël.
Et on peut dire que le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, en rouge et blanc, peut-être qu'il avait d'autres couleurs, mais remonte à combien de temps ?
Lui, il n'est pas très, très ancien. Il y a eu, avant Saint-Nicolas, qui lui paraît avec sa cape d'évêque. Saint-Nicolas est un évêque qui a réellement existé au 3e, 4e siècle en Asie mineure. Mais en fait, ses restes ont été rapportés au Moyen-Âge, en 1087 à Bari, dans les Pouilles. Et à ce moment-là, pour être sauvegardé, disons, des infidèles qui envahissaient la Turquie. Et donc, c'est pour cela que, progressivement, son culte s'est imposé en Europe.
D'accord.
Et en particulier, il y a eu un chevalier lorrain, Aubert de Varangéville, qui a pris une de ses phalanges d'un doigt bénissant, dit-on, et qui l'a apportée à Port, en Lorraine, près de Nancy, et qui est devenu Saint-Nicolas-de-Port, et qui est devenu un grand centre de pèlerinage d'ailleurs. Et puis là, donc progressivement, le culte du Père Noël a amalgamé d'autres croyances de la mythologie germanique, en particulier celle du dieu Odin, qui avait la capacité de se promener dans les airs sur son cheval à huit pattes. Bon, le Saint-Nicolas, lui, ça va être simplement un cheval ou un âne, mais en réalité, donc, ça lui donne la capacité de passer près des cheminées.
On entend dire parfois que c'est à l'entreprise américaine Coca-Cola que l'on doit la version moderne du Père Noël, j'imagine que c'est faux.
Alors, donc, progressivement, Saint-Nicolas était connu, entre autres, parce qu'il était patron des marins, et donc, il est très connu en Amérique du Nord, parce qu'évidemment, les premiers colons américains l'ont apporté. Ils étaient reconnaissants d'avoir traversé l'Atlantique sain et sauf. Et donc là, il s'est progressivement transformé dans un poème de Clement Clarke Moore, comme un petit bonhomme un peu rondouillard, un peu facétieux, et donc qui dépose ses cadeaux. Et il lui attribue, Clement Clarke Moore, des vêtements couleur de suie. Donc, vous voyez, c'est pas encore les vêtements rouges. Et puis, mais le Père Noël est devenu donc extrêmement populaire dans la publicité. Et on lui a attribué des vêtements de couleurs différentes, des rouges, des verts, des bleus, des jaunes, des blancs parfois. Et donc, c'est Coca-Cola, dans les années 1930 quand même, qui a eu le mérite de fixer l'image du Père Noël dans notre imaginaire.
D'accord.
Voilà, c'est devenu un homme d'abord d'une taille normale, donc toujours avec sa grande barbe, les joues rebondies que lui avait prêté Moore dans son poème, et puis il était habillé de rouge, Et il est mondialement connu grâce à Coca-Cola, puisque dans l'hémisphère sud, il fait chaud au moment du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord.
Ouais.
Et donc, on a besoin de boissons fraîches là-bas. Et voilà comment le Père Noël a...
Et comment les grandes entreprises industrielles ne perdent pas le nord.
Hein, si j'ose dire.
Il y a quelque chose de fascinant chez le Père Noël, c'est le fait qu'il soit universel, parce qu'il y a des familles sans religion, évidemment, qui fêtent le Père Noël. Et il y a des familles qui ne sont pas catholiques, qui appartiennent à une autre religion et qui fêtent le Père Noël. Qu'est-ce qui fait cette spécificité universelle?
Alors, au début du XXe siècle, l'Église, en fait, acceptait parfaitement le compagnon de l'enfant Jésus, qui était connu par ailleurs en France, indépendamment de son américanisation, qui va augmenter donc à partir des années 50. Mais auparavant, donc, c'était connu, ce personnage. Et en fait, il passait pour le messager de l'enfant Jésus. Donc, il était très bien accepté. Exactement. Mmh. Absolument. Et par contre, c'est vraiment dans les années 1950 que va vraiment se creuser le fossé entre le Noël païen et Noël chrétien. Mmh. Et c'est à partir des années 50 qu'on a attribué au Père Noël, justement, ce côté beaucoup trop commercial qui n'était pas du tout bien vu par la religion chrétienne.
Il y a aussi une multitude d'autres symboliques moins connues liées aux objets de Noël. Vous avez un ou deux exemples ? Vous en parlez dans vos livres.
Alors, par exemple, il y avait le traîneau du Père Noël, qui est en fait, en réalité, quelque chose aussi de très ancien. Il y avait la croyance qui était répandue dans de nombreuses régions de France de la chasse sauvage. C'est-à-dire que par les nuits d'hiver, en particulier au moment du solstice, donc là, on est en plein, c'était des bruits inquiétants qu'on entendait la nuit quand il y avait un peu de tempête. On se demandait ce que c'était et on imaginait le chasseur sauvage passer avec un cortège de morts et un cortège de chiens, de chiennes, de chiens et chiennes, oui, aboyants, et puis aussi des chaînes qui faisaient des cliquetis un peu inquiétants. Et donc, ce personnage du chasseur sauvage a aussi donné au Père Noël sa capacité de se promener dans les airs avec un traîneau.
D'accord.
Alors, on l'a fait venir après du pôle Nord. Et c'est en particulier Thomas Nast qui avait insisté à la fin du 19e pour le faire venir, parce qu'il venait de l'hiver et du froid.
Peut-être qu'il vient encore plus loin, parce que lors de la mission Apollo 8 que nous raconterons dans le courant du mois de janvier, l'astronaute James Lovell avait dit à ses enfants « Je vais aller sur la Lune, autour de la Lune, si je vois le Père Noël, je vous le dis ». La mission s'est tellement bien passée, il était tellement heureux que quand il est revenu, il a dit à son gamin « Bah oui, je l'ai vu le Père Noël, il est très 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 haut, bien plus haut que le ciel ». On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Forever Pavot, qui chantait ses encore de circonstances au diable.
Même le sol plus.
France Inter. Affaires sensibles.
Aline Cretin, ce qui est marquant, frappant, voire saisissant dans l'affaire de Dijon, c'est le manque de discernement des organisateurs de la cérémonie. Ils savaient tous que nous vivons dans un pays laïque et qu'une action comme celle-là ne pouvait pas passer. Peut-on pour autant les qualifier de catholiques intégristes ?
Je n'irais pas jusque-là. Je pense même que le père Nourissa, dans l'affaire, a été un petit peu dépassé par les événements. D'abord, il ne pensait pas une seconde que ça aurait autant de retentissement.
Ce qui est une erreur, soit dit au passage. C'est un manque de discernement.
Tout à fait, absolument. Mais surtout, ce n'était pas une idée qui venait de lui. C'était une idée qui venait des pauvres bougres, comme il dit, qui l'aidaient à s'en sortir, ou qui sortaient de prison, ou qui allaient y rentrer, enfin même d'après ce qu'il disait. Donc, en fait, il a pris cette idée et il l'a exécutée. C'est le cas de le dire. Mais le chanoine Kir, lui, je pense que c'est vrai que lui n'était pas forcément au courant de toute cette affaire, parce que quelques jours plus tôt, il avait emmené un Père Noël en chair et en os avec lui pour distribuer des cadeaux aux enfants à l'hôpital.
Ah bah c'est une preuve qu'il n'était pas d'accord sur le fond, bien sûr.
Alors lui, au contraire, c'est-à-dire que le Père Noël, il n'y voyait pas de mal, comme il l'a dit d'ailleurs, en fait.
Est-ce que le pape Pie XII, à l'époque, s'est exprimé ? Est-ce qu'on sait ça ?
Non. Non. On ne le sait pas. Ceci dit, je sais pas, il a peut-être l'occasion de dire non.
D'accord.
En tout cas.
Et quel est votre regard sur cette affaire pour le...
Alors moi, mon regard, c'est qu'en fait, je crois que cette affaire a pris trop d'ampleur, même par rapport à ce qu'elle aurait dû, et c'est certainement grâce ou à cause de Lévi-Strauss, parce que c'était évident. Lui, il a vraiment bien rapproché, ça l'a beaucoup intéressé, en fait, ce phénomène qui était vraiment un phénomène pour ethnologue.
Et, ah, complètement, et sociologue, les deux.
Et sociologue. Et donc, lui, il l'a rapproché des Kachinas, qui étaient des poupées, enfin, où ça pouvait être des divinités, ou même des divinités qui étaient carrément des grandes personnes toutes costumées, qui venaient rendre visite annuellement aux enfants, les uns pour punir, les autres, au contraire, pour les encourager quand ils faisaient des choses bien. Et en fait, lui, donc, a rapproché ça de ce monde des Indiens que connaissaient en particulier les Indiens Hopi, qui étaient dans le sud-ouest des États-Unis. Et donc, ça l'a vraiment intéressé à ce moment-là de voir le rôle du Père Noël et en fait, de condamner surtout cette attitude de l'Église qui était beaucoup trop exagérée.
Mais plus qu'exagérée, dans le symbole d'une violence très violente.
Elle
rappelle les horreurs de l'Église catholique. Qui a fait tout au long de l'histoire, de l'an zéro jusqu'au 19e ou 20e siècle, 236 millions de victimes, que ce soit par les conquistadors, par ces pousses au crime qui étaient les évêques auprès des rois de toutes les monarchies les plus dures. Enfin voilà.
Oui, oui.
C'est quand même une culture qui est empreinte de violence et de sang.
Ah oui, tout à fait. Mais la violence à cette époque de solstice, autour des jours sombres de l'hiver qui vont depuis Halloween jusqu'au moment du carnaval, par exemple, c'est vraiment parfois des jours sombres et qui sont empreints de violence, qui sont, comment dirais-je, en même temps, qui témoignent d'un bouleversement cosmique qu'il peut y avoir. Avec ce solstice, ces jours qui basculent pour être des plus courts qui vont devenir les plus grands.
Voilà pour l'Église catholique. Je vous propose maintenant d'écouter l'un des détracteurs du Père Noël. Alors pour d'autres raisons, c'est un laïc, Maurice Martin Laprade, vice-président de l'association L'École des Parents. Il s'exprime au micro de la RTF, j'ai bien dit la RTF, pas l'ORTF, quelques jours seulement après l'affaire de Dijon.
Je serai très véhément contre le Père Noël.
Vous
c'est-à-dire aussi. Contre... Non mais pardon, moi je serais très véhément contre. Contre tout mensonge raconté aux enfants. Ces mensonges racontés d'une manière délibérée, pour rien, ils ne demandent pas les enfants qu'on leur raconte, qu'on leur invente le Père Noël. Ce sont les parents qui, d'une manière délibérée, un beau jour, quand ils ont 6 mois ou un an et demi ou 2 ans, leur mentent et sont un jour forcés de se révéler comme étant des menteurs, des bourreurs de crâne aux enfants. Et après cela, on ira regretter que la confiance des enfants se perde.
Ça, c'est le deuxième front contre le Père Noël. Oui, le front catholique, pas de tous les catholiques, bien sûr. Hein. Oui. Ça, c'est le deuxième front. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je pense aux contes de fées, par exemple. Mmh. Eh bien, c'est vrai que de cette façon-là, on ment aux enfants. Le loup se met à parler au petit chaperon rouge, par exemple. Enfin, et si vous voulez, l'enfant a besoin d'un monde imaginaire, un monde dans lequel il va rêver, et puis un monde qui n'est pas forcément toujours rose, parce que le petit chaperon rouge, dans la version de Charles Perrault, par exemple, il finit très mal, mangé par le loup. Après, on a édulcoré, et c'est un peu à l'image, si vous voulez, de ce rôle que les pédagogues ont voulu prendre en disant, là, il ne faut pas traumatiser ses enfants, il faut... Et puis, qui ont peut-être justement trop édulcoré les choses, à mon avis.
Il faut les renvoyer à la lecture des contes et légendes, par exemple.
Par exemple.
C'est ça, c'est le même objectif qui est poursuivi. Faire entrer dans un monde de rêve qui peut-être amène à réfléchir au monde réel. C'est
oui,
ça
exactement, et dont l'enfant a besoin.
Dont l'enfant a besoin.
Et il se construit avec ça. Il se construit.
Bien sûr. Troisième front, troisième et dernier front de la protestation contre le Père Noël, c'est l'opposition à la société de consommation. Alors, il est vrai et indéniable que Noël, c'est aussi la fête du commerce, hein, de la surconsommation, pas vraiment dans l'air du temps, finalement. Donc, est-ce que cette fête de Noël, elle est un petit peu menacée de ce point de vue?
Vous voulez dire le Noël de 2022?
Oui, c'est ça, oui. La surconsommation.
Et la sobriété voudrait
voilà,
que...
exactement.
Mais en fait, les gens ne vont pas faire beaucoup de... ils ne vont pas se limiter beaucoup, ni sur le plan des réveillons, ni sur le plan des cadeaux.
Mais oui.
Et ça, c'est quelque
l'exception,
chose de
quoi.
Plus fort. Oui, c'est
la
ça.
Parenthèse enchantée.
Mais qui porte bonheur. Alors finalement, c'est une générosité qu'on est heureux d'avoir.
Ce sera le mot d'affaire. Je remarque que vous êtes habillée en rouge et en blanc, madame. Ah. Je ne sais pas si c'est volontaire.
Absolument.
Merci. Merci en tout cas d'être venu nous voir et de nous expliquer tout ça. Merci, au revoir. Oh. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Le Père Noël brûlé à Dijon. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.